Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Quiconque quitterait les engagements pris au sommet du G7 montrerait son incohérence et son inconsistance. Qu'en termes agacés, ces choses-là sont dites. Le président français tacle sèchement le revirement des États-Unis qui se sont désolidarisés in extremis du communiqué final. Nous prendrons le temps dans cette édition de mesurer les conséquences sur l'Europe politique de l'issue accidentée du sommet de la Malbaie. La FNSEA appelle au blocage cet après-midi de 13 raffineries. Le syndicat se dresse contre l'huile de palme et le gouvernement français qui favoriserait son intégration au biocarburant. À la fin de cette édition, la face cachée du globe, Nabila Hamel nous parlera entre autres du Qatar et des employés du CICR évacués du Yémen pour des raisons de sécurité. Sagesse, tempérance et expansion à Qingdao, où se sont réunis les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, volte-face, aigreur et fébrilité à la Malbaie au G7. Il serait délicat d'opposer de manière si manichéenne deux sommets, moyennant quoi il est tentant de juxtaposer un tweet rageur à cette déclaration du président chinois. Nous devons rejeter la mentalité de guerre froide et de confrontation entre les blocs, regretter et rejeter les politiques égocentriques. Xi Jinping était alors aux côtés de son hôte de marque, Vladimir Poutine. Bonjour Angélique Forget.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Pékin. Xi Jinping l'a déjà tenu ce discours, mais à quelques heures d'un G7 chaotique, il gagne en densité.
Oui, on s'attendait à des annonces concrètes lors de ce sommet. Et au lieu de ça, nous avons surtout assisté à un plaidoyer du président chinois pour l'ouverture des marchés. Xi Jinping a dénoncé des politiques commerciales égoïstes et à courte vue, comme un pied de nez à Donald Trump et à son protectionnisme, bien qu'il n'ait jamais mentionné les États-Unis dans son discours. C'est bien au président américain que s'adressait Xi Jinping et à ses menaces de guerre commerciale. Le président chinois le sait, au sommet du G7 qui avait lieu donc lui aussi ce week-end, Donald Trump est apparu isolé et c'est comme si Xi Jinping avait voulu en remettre une couche, rappeler que de ce côté aussi de la planète, c'est Donald Trump qui est à l'origine des crispations. Mais il ne faut pas s'y méprendre, le libéralisme de Xi Jinping est un libéralisme de façade. En Chine, la préférence nationale reste la règle. En fait, si Xi Jinping tient ce discours, c'est pour préserver ses intérêts. Il ne veut pas d'un changement de paradigme, car la Chine a besoin de continuer d'exporter pour maintenir sa croissance.
Merci à vous, Angélique Forget, en direct de Pékin. La présidence française a mis quelque temps avant de réagir au jaillissement de Donald Trump, comme si l'Élysée ne l'avait pas pressenti. Ce dimanche matin, la présidence écrit « La coopération internationale ne peut dépendre des colères et des petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples. » Fin de citation. Emmanuel Macron rappellerait à l'ordre son ami américain. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Mathieu.
Sarah, comme si le président français découvrait la volatilité affiché de Donald Trump.
La volte-face est en tout cas spectaculaire, puisqu'en deux tweets rageurs envoyés depuis son avion, Donald Trump a réduit à néant deux journées d'âpres discussions entre les membres du G7, torpillant ainsi la déclaration commune à laquelle ils avaient abouti dans la douleur. Alors à quoi est dû ce brusque revirement? Officiellement, au propos du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui avait jugé insultant la hausse des droits de douane réclamée une semaine plus tôt par Donald Trump sur les importations d'acier venant du Canada. Mais cette volatilité, Mathieu, n'est sans doute pas si impulsive, c'est en tout cas l'analyse de Marie-Cécile Nave, chercheuse en sciences politiques à l'IRIS. Pour elle, le président Trump avait savamment préparé sa volte-face. Écoutons-la, elle était ce matin au micro de Matteo Maestracci.
Je ne trouve pas que ce soit une volte-face spectaculaire. Il attendait juste le prétexte pour le faire. Et finalement, qu'il signe ce texte commun aurait été plus surprenant. Finalement, le coup d'éclat de Trump, c'est une manière de se présenter comme étant seul contre tous, un peu comme le héros contre la terre entière. Et il faut se remettre dans le contexte à la fois des élections de mi-mandat qui arrivent dans 5 mois. Et surtout, il envoie ce tweet alors qu'il est dans l'Air Force One, qu'il emmène à Singapour, oui, où il veut apparaître face à Kim Jong-un comme quelqu'un de combatif, de dur à la négociation, et donc en position de force. Il veut montrer à son interlocuteur nord-coréen que les négociations vont être difficiles. Donc tout ceci, à mon avis, est largement préparé. Et finalement, c'est ça qu'on va retenir du G7. Donc il gagne sur le plan de la communication, il gagne sur le plan du rapport de force. On ne retiendra que ça du G7, puisque c'est c'est les images et les mots qui tournent en boucle.
Alors voilà pour ce qui concerne l'événementiel du G7. Après quoi, Sarah se pose la question de l'Europe politique. Dans quel état sort-elle de cette passe ?
En d'autres termes, l'Europe a-t-elle les moyens de faire front uni face aux nouvelles exigences des États-Unis en matière de commerce international ? Certains, comme l'ex-premier ministre belge Guy Verhofstadt, voient dans les rodomontades de Donald Trump l'occasion inespérée de resserrer les rangs de l'Union européenne, qui a selon lui déjà prouvé sa solidité face à la décision unilatérale des États-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. D'autres pointent au contraire les fortes divergences entre États sur la question des taxes sur l'aluminium et l'acier européen, mais aussi sur les voitures réclamées par les États-Unis. Certains pays, comme l'Allemagne, étant plus dépendants que d'autres de ces exportations. Côté européen, en tout cas, la contre-offensive est en marche, et cela bien avant le G7. Les 28 ont réagi à ces droits de douane supplémentaires en portant plainte contre les États-Unis auprès de l'OMC, le gendarme du commerce mondial. Et l'UE a menacé de mettre en place des droits de douane sur les produits américains, comme le bourbon, les Harley Davidson ou les jeans. Ces contre-mesures pourraient entrer en application dès le 20 juin prochain.
Merci à vous, Sarah Petitbon. Première déclaration du ministre italien de l'économie depuis sa prise de fonction il y a une semaine, Giovanni Tria. Le nouveau gouvernement n'a aucune intention de quitter la zone euro et va se focaliser sur la réduction de la dette par une relance de la croissance via l'investissement et les réformes structurelles et non par une politique de déficit budgétaire. Fin de citation. En Syrie, de violents combats entre les forces pro-régime et des effectifs de l'organisation État islamique pour le contrôle de la ville de Boukamal, dans le nord du pays. En 24 heures, ces combats ont fait 30 morts, 30 combattants du Hezbollah libanais et iranien. 21 djihadistes ont été tués. Bilan provisoire livré par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au Liban, rien ne va plus entre le ministre des Affaires étrangères et l'agence onusienne du Haut Commissariat des réfugiés. Gibran Basile menace en effet de suspendre les permis de séjour des employés étrangers du HCR. Cela concerne une petite centaine de personnes. Il accuse l'instance, je cite, d'intimider les réfugiés pour qu'ils restent au Liban. Dans ce pays, les Syriens représentent désormais un quart de la population. Lisa Abdulraled est la porte-parole du HCR à Beyrouth.
Le HCR n'a aucune intention à semer la terreur chez les réfugiés ou bien à changer leur avis quand les réfugiés prennent des décisions personnelles, individuelles de rentrer chez eux. C'est leur droit et c'est leur décision. On respecte leur décision, quelle qu'elle soit. Le HCR a aussi plusieurs fois répété que nous respectons la politique libanaise, que l'intégration locale n'est pas une option pour les réfugiés syriens au Liban. Il y a des régions en Syrie qui sont toujours des risques de sécurité. On comprend qu'au Liban, le Liban est un pays très petit qui a reçu beaucoup, beaucoup de réfugiés. Et c'est un très grand fardeau. Mais voilà, nous... On répète qu'on est là pour essayer aussi d'aider les communautés hautes, d'aider le gouvernement libanais à supporter ce poids, mais aussi à aider les Libanais qui ont été affectés par cette crise.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Dans trois jours, Bruxelles planchera sur la place de l'huile de palme dans les biocarburants et ce calendrier a dicté celui de la FNSEA qui aujourd'hui appelle ses adhérents à bloquer 13 raffineries et dépôts de carburant. Le récent feu vert du gouvernement français à la reconversion de l'unité totale de la MED en centre de production de biocarburants a enflammé les esprits, ceux des ONG et ceux de la FNSEA sur la même ligne, sur ce front-là. Et c'est assez rare pour être souligné. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, était ce matin, l'invité de nos confrères de France Info.
La goutte d'huile qui fait déborder le vase, c'est la MED et Total qui décide d'importer de l'huile de palme. Mais la réalité, c'est depuis 6 mois, la signature d'accords commerciaux scélérats qui laisse venir en France des produits, notamment de la viande, du sucre, de l'éthanol, qui ne respectent pas les mêmes conditions de production. Il y a eu 8 jours et 8 nuits de débat à l'Assemblée nationale récemment à propos d'une loi suite aux états généraux de l'alimentation. Le cœur du débat a été de définir quelle alimentation voulons-nous en France, comment assurer mieux le revenu des agriculteurs et mieux répartir la valeur. Comment aussi répondre aux attentes des Français qui veulent plus de bio, plus de sanitaire, plus d'environnement, plus de bien-être animal. Et en même temps, le gouvernement sillonne le monde et va signer des accords commerciaux. Et là, c'est le Mercosur qui menace d'importer de la viande, encore 90 000 tonnes, de l'éthanol à droit zéro qui vient concurrencer directement nos betteraviers français. Donc, on ne peut plus tenir comme ça. Nous, nous voulons bien commercer, mais avec des règles du jeu égales.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Il est presque 12h40, c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Nouveau décompte des voix après les législatives du mois dernier en Irak. Face à de multiples accusations de fraude, cette opération concernera près de 11 millions de voix. Elle n'empêche pas le chef chiite Moqtada Sadr, arrivé en tête du scrutin, de renforcer sa position en formant un bloc parlementaire avec deux autres formations, l'une chiite, l'autre conduite par le laïc Iyad Alaoui. Sans avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, Khartoum avait avec Pyongyang des accords de défense qu'il vient d'annuler. C'était un des préalables imposés par les États-Unis pour étudier le retrait du Soudan de leur liste des pays terroristes. Un peu plus de la moitié des collaborateurs internationaux du Comité international de la Croix-Rouge en activité au Yémen ont été transférés hors de ce pays en guerre pour des raisons de sécurité. Ces activités sur place s'en trouveront forcément limitées, mais Marie-Pierre Véraud, l'organisation ne veut pas prendre de risques supplémentaires pour ses équipes sur place.
Ce sont en tout 71 humanitaires du CICR qui ont été évacués et conduits à Djibouti après une série d'incidents et de menaces. Jeudi, le Comité international de la Croix-Rouge a expliqué sa décision par les blocages de ses activités depuis des semaines et par les menaces que subit son personnel pris pour cible. Il y a moins de deux mois, une de ses employées libanaises était tuée à Taez, dans le centre du Yémen, et le théâtre de violents combats entre les miliciens chiites, Houthis, au pouvoir à Sanaa, et les forces fidèles au président yéménite en exil, soutenues par la coalition arabe que conduit l'Arabie saoudite. Si notre délégation au Yémen a déjà subi des menaces à de nombreuses reprises par le passé, nous ne pouvons accepter qu'elle s'expose à des risques supplémentaires dans les circonstances actuelles. Pour Dominique Stillart, le directeur des opérations de l'organisation humanitaire, il y a clairement une volonté d'instrumentaliser le CICR sur l'échiquier du conflit. Il demande donc à toutes les parties de lui fournir des garanties réelles. Aujourd'hui en tout cas, les activités du CICR se trouvent de fait réduites, surtout dans le domaine des soins chirurgicaux, des visites aux détenus et de l'approvisionnement en eau potable.
Le 5 juin 2017 éclatait une crise entre le Qatar et son puissant voisin saoudien et ses alliés, notamment les Émirats arabes unis. Rupture des relations diplomatiques, blocus aérien et maritime pour les compagnies du Qatar. Passé le premier moment de choc et un an après, l'émirat gazier n'a pas sombré. Quelle est sa situation aujourd'hui? Nous avons posé la question à l'ambassadeur du Qatar en France, Khalid El Mansouri.
On a réussi à ouvrir de nouvelles routes maritimes grâce au nouveau port Hamad, inauguré au moment où éclatait la crise. Il gère des activités de la région à hauteur de 27%. Nos exportations de gaz n'ont pas souffert non plus. Disons que nous n'avons pas manqué une seule cargaison pour cause de blocus. Pour ce qui est de la croissance, le dernier rapport du FMI est le meilleur témoignage de notre succès économique et commercial et de notre politique de diversification. Le FMI confirme la croissance de 2,6% et l'on attend l'année prochaine un taux encore plus élevé.
Alors la crise est partie d'exigences formulées à propos des relations entre le Qatar et l'Iran. L'autre grief porte sur la chaîne satellitaire Al Jazeera. Comment Doha aborde cette question aujourd'hui?
L'État du Qatar aspire à une relation saine et durable avec tous les pays sur la base du respect mutuel, du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ces principes sont les nôtres, y compris avec l'Iran. Notre relation commerciale avec Téhéran est très limitée en comparaison avec les autres pays qui nous imposent le blocus et qui ont eux-mêmes des relations importantes avec ce pays. C'est le cas des Émirats arabes unis qui ont avec l'Iran des échanges commerciaux à hauteur de 13 milliards d'euros, ce qui fait des Émirats le deuxième partenaire de l'Iran après la Chine. Donc ce blocus est incompréhensible et inacceptable. Concernant la chaîne Al Jazeera, elle est de mon point de vue une chaîne pionnière en matière de diversité de l'information et son sort n'est pas négociable. Même l'Europe refuse qu'Al Jazeera soit fermée.
Plusieurs pays, dont la France, plaident pour une solution diplomatique et soutiennent les efforts de réconciliation de l'émir du Koweït, mais le blocus est toujours de mise. Du côté du Qatar, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les choses ?
Plusieurs puissances dans le monde ont effectivement demandé la fin du blocus et une solution négociée et adéquate à cette crise. Malheureusement, ces efforts se heurtent à un refus. Nous pensons en conséquence que la communauté internationale doit maintenir ses pressions diplomatiques, car aujourd'hui, il faut comprendre que la région a surtout besoin d'unir ses forces pour affronter les dangers du terrorisme et doit s'éloigner des différences stériles. La solution, c'est de se mettre autour de la table des négociations sans condition préalable.
Khalid El Mansouri, ambassadeur du Qatar en France. D'ici 2025, il ne sera plus question pour la Maison-Blanche de mettre la main à la poche pour gérer au quotidien la station spatiale internationale ISS, d'où des discussions entreprises ces derniers jours par la NASA avec plusieurs entreprises privées. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Mel, merci. La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Encore des orages. Météo France a placé 23 départements en vigilance orange à partir de 16h et jusqu'à lundi soir minuit. L'axe allant de l'Île-de-France à la région Occitanie, en passant par le centre et le Limousin, devrait être le plus touché. Cette édition a été préparée avec Martin Desclozeaux, à la technique Alex Dang.